Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au Diplomat Podcast où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Cette semaine, je reçois le professeur Serge Granger, qui est enseignant ici à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. On va parler des défis internes de l'Inde et on va aussi aborder ses relations diplomatiques avec le reste du monde. Sur ce, bonne écoute! Bonjour, bienvenue, M. Granger.
Bonjour.
Et j'ai aussi Léopold avec moi, qui est un de mes amis au bac à l'École de politique appliquée. Donc, allô, Léo.
Bonjour.
Cette semaine, je voulais parler avec vous un peu plus, établir un portrait réaliste de l'Inde. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes qui pèsent sur ce pays-là. J'aimerais ça qu'on en parle, puis aussi qu'on mette en lumière c'est quoi les relations diplomatiques de l'Inde à l'échelle mondiale. Avant qu'on commence, est-ce qu'on peut faire une distinction entre l'Inde qu'on perçoit à l'international comme étant une puissance globalisante, puis l'Inde qu'on perçoit à l'interne? Comme ce que j'entends par là, c'est tous les enjeux de pauvreté, d'inégalité, structure, manque d'infrastructure, un haut taux de chômage.
Oui. Disons que l'image de l'Inde à l'extérieur de l'Inde est plus positive que l'image qu'on a à l'intérieur de l'Inde. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les gens qui voyagent en Inde, bon, sont souvent issus d'une classe un peu plus aisée que la majorité des Indiens. Donc, les Indiens qu'on voit à l'extérieur, dans la diaspora, etc., reflètent en partie, bien sûr, la population indienne, mais il y a une bonne partie qu'on ne voit pas ici, c'est-à-dire l'Inde qui est un peu plus, justement, modeste et pauvre, qui n'a pas les moyens de voyager, etc. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième élément aussi, vu de l'extérieur, l'Inde est difficilement descriptible parce que lorsqu'on va en Inde, on est profondément touché ou du moins assommé, je dirais, par plusieurs éléments qu'on y retrouve. C'est beaucoup plus bruyant qu'on peut l'imaginer. Alors, cette image de voir un Bouddha en pleine séance contemplative, il faut aller pas mal loin dans l'Himalaya pour voir ça en Inde. Sinon, il y a un autre élément aussi, il y a tout ce qui bouge, le bruit, l'odeur, bref, ça fait un Inde beaucoup plus intense qu'on vit quand on est sur place plutôt que sur papier. Alors, il y a une différence importante, c'est-à-dire c'est surtout nos sensations, nos sens qui sont éveillés de façon beaucoup plus intense une fois qu'on est en Inde, tandis qu'ici, c'est plutôt un regard peut-être de curiosité qu'on a envers l'Inde, mais c'est peut-être que les sens sont peu interpellé, tandis qu'en Inde, ça fait toute une différence qu'on voit et on sent et on touche à ce pays.
Oui, vous avez voyagé beaucoup en Inde, justement, puis dans quelle région, disons, j'ai tellement de questions en tête, j'ai mis à l'unanimité, mais quand vous êtes allé en Inde, c'est dans quelle région vous êtes allé exactement?
Bon, au début, il y a une vingtaine d'années, je suis allé au Gujarat. Au Gujarat, c'est le sud-ouest de l'Inde, c'est-à-dire c'est une province qui est la plus à l'ouest et qui a beaucoup d'une diaspora qui est présente en Afrique parce que c'est une province qui est reconnue pour avoir envoyé beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Ça, c'est au Gujarat. C'était 6 mois après les massacres qu'il y a eu, les massacres de musulmans, entre hindous et musulmans qu'il y a eu en 2003. Alors, c'était un peu particulier être dans cette région à cette époque. Et c'était dans un objectif de recherche. Là, j'étais là pour 3 mois. Alors, moi, j'ai tendance plutôt à faire des séjours de 2-3 mois quand je vais en Inde, compte tenu que c'est loin. Alors, je suis allé aussi 3-4 mois aussi à l'Université Jawaharlal Nehru, où j'ai enseigné au département des langues étrangères, département d'études francophones. Je suis resté là justement un bon 4 mois. Et ensuite, d'autres séjours de 2-3 mois, dont un à Pune, au Maharashtra, c'est pas très loin de Mumbai. C'est un centre intellectuel très important de l'Inde historique parce que les luttes anticoloniales ont beaucoup débuté dans la région de Pune, justement. Alors, je suis allé faire de la recherche simplement dans les archives dans ce coin-là, puis en plus, bien sûr, fraterniser avec les gens de l'Université de Pune. Et d'autres, les régions que je préfère, je vais vous avouer, c'est plus en région himalayenne parce que je suis allé à quelques reprises à Shimla, bien sûr, à Manali, dans l'Himachal Pradesh. Et là, on est en montagne, on voit les neiges éternelles de l'Himalaya. Alors, j'ai tendance plutôt à aller, si je n'ai pas de travail à faire, je vais aller dans ces régions-là parce que, justement, Il y a moins de monde, c'est plus tranquille et l'air est plus, plus respirable.
Est-ce que vous diriez que c'est plus authentique là-bas, la vie?
Ah, c'est la grosse différence, c'est entre les villes et les campagnes, parce qu'il y a un déracinement qui s'opère parce qu'il y a beaucoup de migration interne en Inde. Fait qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent un peu partout en Inde, qui sont dans des grosses villes, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait pareil lorsqu'on va dans des régions un peu plus, des plus petites villes ou des régions plus rurales, où là, c'est plutôt des gens qui habitent le territoire qui sont là depuis très longtemps. Donc, les coutumes ou du moins l'histoire ou les cultures indiennes apparaissent plus dans ces régions-là que dans les grandes villes. Alors, c'est pour ça que j'aime bien aller dans des villes un peu plus... Ben là, c'est relatif parce qu'en Inde ou en Chine, quand on parle de grosses villes, on est dans une dizaine de millions, là, mais disons que je préfère les villes en bas d'un million, disons. C'est tant qu'à visiter.
Fait que Delhi ou la
capitale? Delhi, Mumbai, c'est toujours utile pour le travail, etc. Puis Delhi a un certain charme aussi.
C'est comment l'atmosphère là-bas, quand on arrive sur place, comment vous décririez ça?
Alors, il y a deux comme Delhi, par exemple, il y a deux Delhi. Il y a le New Delhi, si vous préférez, qui fait plutôt style européen avec des grands boulevards puis des monuments un peu à la gloire de l'Empire, je dirais. Disons, c'est très différent comme ville. Et le Vieux Delhi, qui est plutôt des petites rues. Et là, il y a beaucoup de beau monde, justement. Et il y a tout un peu ce capharnaüm urbain qu'on retrouve plus, justement, dans le Vieux Delhi que dans le New Delhi.
Si donc, beaucoup de pauvreté, j'imagine.
Oui, mais ça dépend beaucoup des quartiers ou des lieux de certains quartiers qu'on retrouve la pauvreté en Inde, parce que les pauvres en Inde ont un aspect un peu utilitaire, c'est-à-dire les riches vont maintenir des ultra-pauvres pas très loin de chez eux pour qu'ils servent de servants.
Ah oui.
Alors
ça va avec les castes, j'imagine?
Globalement, oui. Okay. Les intouchables, comme on appelle ici. Ici, où les Dalits, là, qu'on utilise plutôt en Inde, eux, en effet, on pourrait dire que la majorité travaille dans l'économie informelle, c'est-à-dire qu'ils font des services, ils vont genre être jardinier ou cuisinier ou bonne. Et on les paye plutôt en nature avec un très petit salaire, ce qui fait que ces gens-là sont un peu dépendants, si vous préférez, de l'employabilité envers les personnes plus riches. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a tendance à avoir des bidonvilles juste à côté des grandes villas en Inde, parce que c'est des travailleurs finalement. Ce ne sont pas nécessairement simplement des migrants urbains, mais ils travaillent souvent dans des résidences cossues.
Les bidonvilles, c'est ça encore une vraie réalité en Inde? Je sais qu'il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Puis je me demandais si le gouvernement indien a réussi à mettre en place des mesures efficaces pour essayer de réduire la pauvreté.
Deux choses. Les bidonvilles sont encore très présents en Inde. Quand il y a eu la rencontre, d'ailleurs, du G20, on a nettoyé un peu une partie de la ville pour cacher un peu cette réalité.
Mais, malheureusement.
Oui, mais Montréal a fait la même chose pendant l'Expo en 1967. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'on cache les pauvres. On fait ça ici comme ailleurs. Autre élément aussi, peut-être, quand on parle justement de cette densité ou cette différence entre castes. Il y a des quartiers aussi qui sont plus associés à certaines castes. Donc, c'est plus facile de savoir si je suis dans un quartier riche ou un quartier pauvre. Parfois, c'est simplement par la couleur de la maison. Il y a des quartiers où ce que les...
Une caste, ça va juste par la couleur de la maison?
Oui, bien, les castes, une caste, en sanskrit, ça veut dire varna. Varna, ça veut... C'est associé à une couleur. Et non pas nous, on a traduit ça par caste parce qu'il y a une certaine étanchéité sociale à travers les castes. Mais fondamentalement, c'est une identité de quatre couleurs. Le blanc étant la couleur de la pureté, donc les brahmanes sont associés au blanc, etc. Donc, des fois, on voit des quartiers où certaines couleurs sont prédominantes, comme le blanc ou, disons... sens contraire, le bleu, par exemple, qui pourrait être associé à un autre caste. Ce qui fait que la division sociale est apparente en Inde beaucoup plus qu'ici. Au-delà du fait qu'on peut juger la richesse de quelqu'un par son habillement, par exemple.
Quelque chose que nous, on n'a pas ici, en fait. On n'est pas capable de le dire si une personne est pauvre ou riche. Les vêtements ne font pas une grande différence, au fond.
C'est que, oui, en effet, ici, un pauvre peut se déguiser en riche. C'est ça. En Inde aussi. Mais ce que je veux dire, c'est globalement, je veux dire, c'est plus facile d'associer des gens de basse caste en Inde. Ça, c'est plus évident.
Okay.
Parfois, c'est écrit dans ton nom, parce que ton nom indique d'où tu viens.
C'est plate, c'est écrit dans ton nom, tout le monde le sait, dans le fond.
C'est comme si quelqu'un s'appelle, tiens, en québécois, Boucher, par exemple, Jacques Boucher, on ne peut pas cacher, dans le fond, l'origine médiévale de ton nom, tu es un boucher, alors c'est pas très bien coté dans le système de caste en Inde, de manipuler des carcasses d'animaux morts, alors en Ouamé, bouchers sont pas mal en bas dans la caste, dans le système de caste. Tandis qu'il y a d'autres noms qui indiquent un peu l'origine d'où viennent les personnes. Alors, c'est une façon de faire la distinction aussi en Inde. Parfois, il y a de la discrimination basée sur la caste. C'est un combat de tous les jours. Et pour revenir à la question sur de la pauvreté, le gouvernement, oui, il y a 33% de la pauvreté mondiale qui est en Inde. C'est un pays relativement très pauvre parce qu'il y a des gens qui sont très, très pauvres. Mais depuis environ une dizaine d'années, le nombre d'extrêmes pauvres en Inde diminue parce qu'il y a des programmes gouvernementaux. Il y a aussi une aide minimale. C'est surtout de l'aide en nature. C'est rarement de l'argent.
Qu'est-ce que vous entendez par aide en nature alimentaire?
Donner du riz ou tout simplement de la farine, par exemple, ou des oignons, ce qui constitue la base... La nutrition indienne. Alors, souvent, on a des programmes qui permettent de la distribution. Il y a beaucoup de philanthropie aussi en Inde, des gens les plus riches, là, les hautes castes. Il y en a beaucoup qui font de la philanthropie pour soit aider les jeunes à aller à l'école, par exemple, ou ils mettent en place un programme pour les petits déjeuners, par exemple. Des choses comme ça, ça existe en Inde. Et c'est pour ça que, dans le fond, je vous donne un exemple très simple. L'ancien gouvernement indien avait instauré un programme de 100 roupies de salaire pour 100 jours. Bon, on calcule l'extrême pauvreté quand on fait moins qu'un dollar 90 par jour. Ça, c'est la façon qu'on calcule l'extrême pauvreté. Alors, 100 roupies par jour à l'époque, ça vous donnait 2 dollars par jour.
Alors, un petit peu au-dessus.
C'est une façon de montrer qu'on a des statistiques performantes en lançant ce projet-là, ce qui fait que tu sors d'un coup sec, je ne sais pas, une dizaine de millions de pauvres qui vont s'intégrer dans ce projet, ce qui fait que, statistiquement parlant, c'est toujours agréable de dire qu'on a éliminé de l'extrême pauvreté, mais on parle de l'extrême pauvreté, on ne parle pas de la pauvreté. Alors,
il n'y a pas un peu une hypocrisie là-dedans de bien vouloir paraître sur la scène internationale, mais qu'au fond, il n'y a pas une tant grande différence. Oui, je comprends, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais on parle ici de 10 cents au-dessus de ce qui est considéré l'extrême pauvreté.
Oui, mais avec 10 cents, tu peux aller acheter quelque chose en Inde, ce qui n'est pas le cas ici.
C'est vrai qu'il y a une
différence. Mais non, c'est en effet, c'est pas c'est comme si on augmentait le salaire minimum au Québec de 10 cents de l'heure, vous comprenez? C'est une augmentation, mais c'est pas une grosse augmentation, puis ça sort pas des gens... On ne parle pas de l'extrême pauvreté, mais plutôt de la pauvreté ici, parce qu'il y a un filet social qui est un peu plus généreux. Il y a beaucoup d'Indiens qui se battent pour avoir accès à ces programmes-là, parce qu'au-delà du fait de donner un salaire minimal, si vous avez un emploi au gouvernement en Inde, vous avez accès à un fonds de pension, ce qui est déjà là très recherché en Inde, car les services sociaux sont faibles. Alors, tout emploi au sein du gouvernement vous donne, dans le fond, des avantages qu'on ne voit pas sur une paye directement, mais qu'on voit plus tard parce que ça contribue, entre autres, à votre fonds de pension, par exemple, ou ça vous garantit, dans le fond, une assurance maladie pendant que vous êtes en train de travailler. Donc, il y a beaucoup d'Indiens que même si le salaire n'est pas très élevé, ça l'offre quand même des éléments qu'ils n'obtiendraient pas sinon sans ces programmes.
OK. Tantôt, vous avez mentionné qu'il y a beaucoup d'intouchables, donc la plus basse caste, qui est engagée par des gens qui sont plus riches, mais qui sont payés en nature. Est-ce que ça fait partie de l'économie qui est informelle? 80% de l'économie informelle.
C'est ça. Alors, c'est un peu le problème en Inde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économies informelles, ce qui fait en sorte que le gouvernement indien n'a pas de capacité de capture fiscale, si vous préférez. Donc, ça peine le budget, mais aussi, en bas de 1 000 on ne paye pas d'impôts. En bas de 1 000 par année de revenus en Inde, on ne paye pas d'impôts. Alors, même si on rend cette économie formelle, il y a toujours une partie qui vont faire en bas de 1 000 par année.
Mm-hmm.
Mais c'est un problème des pays, je vous dirais... tente de sortir de la pauvreté, l'efficience gouvernementale en termes de ponction fiscale pour offrir ensuite des programmes sociaux. L'Inde a beaucoup de difficultés de ce côté-là. Ça s'améliore, normalement pas vite, parce qu'elle est en train de numériser, si vous préférez, les services sociaux. Donc, à titre d'exemple, on a introduit une carte d'identité indienne pour être associée avec un compte bancaire. Alors, le gouvernement pouvait déposer directement dans le compte des personnes les programmes sociaux pour éviter que les enveloppes budgétaires passent à travers plusieurs mains et qu'on pige dedans, disons. Ce qui fait que l'accessibilité aux programmes sociaux, ça s'améliore en Inde au lieu de se détériorer. Ce qui fait que il y a des moyens de... Disons que les dispositifs ne sont pas entièrement mis en place, mais du moins, il commence à y avoir des dispositifs qui permettent à des personnes de sortir de la pauvreté, que ce soit par le travail ou les études, parce qu'il y a aussi des programmes qui favorisent l'inclusion des extrêmement pauvres dans le système d'éducation. À l'Université Jawaharlal Nehru, j'étais justement, il y avait 15% d'intouchables, un quota d'intouchables, pour permettre justement une partie
d'accéder
à l'éducation supérieure. Alors, il y a des gestes qui sont faits, c'est moins étanche qu'avant, le système de caste, ça bouge.
Okay.
Et ça permet une certaine ascension sociale par le biais surtout de l'éducation.
C'est une bonne nouvelle à entendre, dans le fond, qu'il y a certaines mesures qui sont mises en place.
Il y a des mesures qui peuvent être efficaces. Il y en a beaucoup, des fois, qui ne le sont pas.
Mon commentaire a l'air super positif, mais on s'entend que la pauvreté n'est pas réglée en Inde. Les statistiques restent les mêmes, puis il y a encore des gros enjeux.
Ouais.
Justement, ça touche quelle région exactement? Parce qu'on se demandait, moi puis le Paul, en fait, il y a plusieurs régions en Inde, il y a une grande disparité. C'est quoi au niveau des ethnies?
Disons que certaines provinces sont plus pauvres que d'autres, entre autres le Bihar ou le Madhya Pradesh. Ce sont des provinces enclavées, donc la croissance économique de la mondialisation touche moins les provinces intérieures que les provinces côtières. C'est normal parce que les provinces côtières mettent en place, c'est là que toutes les compagnies étrangères, etc., souvent c'est dans ces régions-là. Il y a quelques exceptions, en l'occurrence à Bangalore qui est le centre nerveux dans le fond des logiciels en Inde qui n'est pas sur le bord de la mer. Mais disons, la plupart des grandes villes où la croissance économique est en pleine effervescence, c'est souvent des villes côtières, comme Mumbai par exemple, ou Chennai, ou Calcutta si vous préférez. Ce sont des villes qui sont en pleine croissance, qui attire beaucoup de migrants internes, ce qui fait en sorte que dans les villes, parfois, c'est un peu le Capharnaüm, parce que ça l'accentue, si vous préférez, les bidonvilles, justement, où les gens s'en
Le Capharnaüm?
Capharnaüm, c'est le bordel, si vous préférez. C'est une expression qui veut dire il y a beaucoup de bruit ou ça va tout bas, tout croche. Donc, une ville indienne peut être le Capharnaüm parce qu'il y a beaucoup de bruit. Bref, quand j'ai dit que vos sens sont interpellés en Inde, ils le sont énormément, surtout dans les régions urbaines, parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, beaucoup de monde, ça bouge. Alors, c'est ça.
Mais pour revenir justement à qu'il y a plusieurs régions un peu différentes, est-ce que le pays est capable quand même d'être unifié? Est-ce que c'est un pays quand même unifié dans le sens de quand on le compare à des pays comme la France, le Royaume-Uni?
Bon, c'est historiquement, l'Inde n'est pas un pays un peu... Si on regarde les frontières actuelles, il y a certaines parties du pays qui n'ont jamais été vraiment gouvernées par le gouvernement central. Mais il y a encore des régions où il y a des minorités qui craignent un peu la migration interne de l'Inde et de perdre un peu leur identité et aussi, surtout, les ressources qui se retrouvent sur le territoire. Je vous donne un exemple. Il y a des régions minières en Inde qui attirent beaucoup de migrants d'un peu partout en Inde et les gens sur place s'opposent, bien sûr, à cette migration interne parce qu'ils croient qu'ils ne seront pas engagés, ils n'auront pas de l'emploi.
Mm-hmm.
Et ça crée des tensions linguistiques ou les tensions religieuses, parce que si on regarde entre autres les frontières, les provinces frontalières au Bangladesh, par exemple, où des migrants, temporaires, on va les appeler, souvent sont accusés d'être des Bengalis, d'être des musulmans, puis on veut les retourner au Bangladesh. Alors il y a cette tension.
Mais justement, sur les tensions religieuses, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup en ce moment ou dans les années antérieures, on a vu des conflits entre hindous et musulmans, et comment avec le gouvernement qui est sur des mesures un peu, des fois, assez pro-hindou, à travers toutes ces religions-là, il est capable de coexister ou comment il coexiste pas du tout, finalement?
L'Inde a adopté d'un point de vue constitutionnel la laïcité de l'État. Alors, il faut comprendre que c'est très différent de notre laïcité ici.
Nous, notre laïcité est très stricte, disons.
Oui, elle suit plus le modèle français, je dirais, notre laïcité au Québec, là, que le modèle indien. Le modèle indien, vous avez le droit de porter des signes religieux, parce qu'en Inde, pas mal de monde porte des signes religieux, c'est pas tout le monde. C'est que l'État, dans le fond, ne doit pas se séparer des religions. C'est pas comme ça ici. On fait une division nette entre la religion et l'État. Tandis qu'en Inde, il faut plutôt que l'État traite équitablement les religions. C'est plutôt comme ça qu'on perçoit la laïcité. Il ne faut pas que les projets de loi reflètent, dans le fond, une religion particulière.
Une préférence,
ça. Oui. Mais en ce moment, le gouvernement Modi, de façon, des fois, parfois directe, mais parfois indirecte, justement, fait un choix. Je vous donne un exemple très simple. Pendant sa gouvernance, il a augmenté beaucoup... les peines pour l'abattage de vaches, parce qu'il ciblait surtout les petits bouchers musulmans, parce qu'il a instauré aussi un système de permis avec un système de contrôle, ce qui fait que le petit boucher du coin de la rue ne pouvait pas atteindre les exigences requises. Alors, on en profitait pour fermer souvent son étal. Alors, on favorisait les grands conglomérats industriels producteurs de buffles, pas de bœuf, on n'a pas le droit de dire ça en Inde, mais c'est du buffle, au détriment justement des petits bouchers. Là, les conglomérats sont davantage liés au capital indien ou hindou, si je pourrais le dire, au détriment justement des petits producteurs locaux qui souvent étaient musulmans ou chrétiens. Alors ça, c'est une façon un peu de miner, si vous préférez, l'identité religieuse de certaines personnes. Autre élément aussi, contrairement aux éléments de caste ou de tribus, il n'y a pas de quota en Inde réservé aux religions. C'est-à-dire que même s'il y a 13% de musulmans en Inde, il n'y a pas 13% des emplois qui sont réservés aux musulmans. Il n'y a pas de quota, justement. Il y a des quotas pour les basses castes, il y a des quotas pour des femmes, il y a des quotas pour ce qu'on appelle les tribus, pour l'employabilité dans le service public, non pas dans le privé. Ça, il n'y a pas de quota nulle part. Alors là, on voit qu'on tente de faire, dans le fond, un renforcement de la personne, l'empowerment, si vous préférez, basé sur sa discrimination davantage historique, économique, plutôt que religieuse. Alors, le gouvernement ne veut pas embarquer, justement, parce que s'il irait à l'encontre de sa propre laïcité, c'est d'encourager, dans le fond, un groupe religieux X, Y, Z.
Oui.
Ce qui fait qu'en sorte que ça peut marginaliser des gens issus de religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou bouddhistes, ou sikhs, comme on peut voir. Alors, cette identité religieuse, elle est permise en Inde, mais ça veut dire que cette identité religieuse ne se traduit pas nécessairement par une identité politique, c'est-à-dire revendiquer, bien sûr, un Punjab indépendant, un peu comme le mouvement sikh. Alors, c'est là que la ligne, c'est là qu'on a...
C'est le gouvernement n'aime pas trop ça.
Non, parce que c'est normal, le gouvernement indien, peu importe sa couleur, cherche à maintenir l'unité nationale.
Mm-hmm.
Alors, c'est un peu logique. Il y en a qui utilisent davantage la répression que la carotte, si vous préférez, pour garantir, dans le fond, l'unité nationale. Mais... en ce moment, je pourrais vous dire que le gouvernement Modi attise un peu les divisions religieuses, ce qui fait que ça a fait un peu renaître les mouvements séparatistes sous la gouvernance Modi, qui était beaucoup plus tranquille auparavant.
Oui, on en a connu un effet d'ailleurs ici au Canada.
Exact.
Y aller, vas-y.
En plus, c'est parce que je t'ai pour demander un suivi par rapport aux relations indo-canadiennes, mais... On en reviendra un petit peu plus tard. Je vais laisser Léopold continuer sur sa question avant.
En fait, pour continuer sur les questions ethniques et religieuses, particulièrement la situation du Cachemire qui est tout le temps assez divisé entre l'Inde, la Chine et le Pakistan. Donc, est-ce que vous êtes déjà allé dans cette région-là?
Non.
C'est quoi la dynamique là-bas? Parce qu'on voit vraiment qu'ils sont finalement séparés en trois États qui veulent vraiment contrôler cette région.
Okay. Alors, en ce moment, il y a ce qu'on appellerait un gouvernement qui est mis en tutelle, c'est-à-dire le gouvernement local est contrôlé par le centre à cause des événements qu'il y a eu depuis 2-3 ans. Ça brasse un peu au Cachemire. Il y a eu, depuis son changement de statut, depuis 2019, le gouvernement Modi a changé le statut du Cachemire. Avant, il y avait une certaine autonomie. Là, après ça, dans le fond, ils ont retiré cette autonomie pour en faire une province ordinaire. et ils l'ont charcuté en trois morceaux. Et ça représente un peu ce que vous êtes en train de désigner. Il y a une partie qui est plus hindoue, une partie qui est plus musulmane, puis une partie qui est plus bouddhiste. Alors, dans la partie plus bouddhiste, c'est là que la Chine est présente. Elle occupe le territoire, c'est-à-dire dans le nord-est du Cachemire, dans l'Aksai Chine. Puis dans la partie nord-ouest, c'est le Pakistan qui occupe le territoire cachemiri, du côté plus musulman. Et de son côté, l'Inde tente justement de garantir, dans le fond, elle annonce que protège, dans le fond, la minorité religieuse hindoue au Cachemire. On comprend que c'est... Ça dépend des lieux et de l'intérêt qu'a le gouvernement. Alors, le Cachemire, dans le fond, est occupé sur l'ensemble du territoire. Il y a trois pays, dans le fond, qui occupent le territoire cachemiri. Mais l'Inde revendique la totalité du Cachemire. Même chose aussi pour le Pakistan. Les deux pays revendiquent la totalité des Cachemires. Les Chinois revendiquent seulement la partie qu'ils ont pris, d'ailleurs.
Les autres, ils revendiquent puis ils prennent, dans le fond. Ils ne demandent pas.
Ouais. Ben, disons qu'il y a encore, une petite partie qui est contestée là, par les trois pays là, dans le Cachemire. Mais c'est un glacier.
Plus économiquement, qu'est-ce que cette région apporte? Parce que son nom vient du Cachemire, qui est quand même une ressource qui est importante durant les années du commerce et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi on se bat autant pour cette région-là?
Ben, c'est une région géostratégique importante parce que le Cachemire, c'est un croisement de routes qui vous mène soit vers l'Asie du Sud, l'Asie centrale ou l'Asie de l'Est. Alors, qui contrôle le Cachemire contrôle, en fond, des passes géostratégiques. Alors, c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour le Cachemire. Avant tout, il y a un intérêt géostratégique qui est important parce que le Cachemire touche bien sûr à la Chine, l'Afghanistan, le Pakistan. Alors, on comprend pourquoi c'est un intérêt géostratégique. Au-delà de cela aussi, c'est une région assez riche en céréales. Elle produit beaucoup de blé, entre autres au Cachemire. C'est une région, c'est un peu comme une vallée. Il y a certaines vallées là, qui sont très fertiles. Alors oui, aussi, c'est un autre élément, c'est-à-dire production en céréales. Et en dernier lieu aussi, c'est un contrôle important pour l'eau. L'Inde a beaucoup de problématiques d'eau et capter les eaux en Haute-Himalaya, c'est important. Donc, le Cachemire aussi offre, entre autres, cette possibilité. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs fleuves qui traversent le Cachemire, qui prennent leur source soit en Himalaya ou dans les Pamirs. Et tous ces fleuves se déversent en bonne partie vers le Pakistan. Et là, l'Inde a mis plusieurs barrages hydroélectriques, donc ça sert aussi à faire de l'énergie. Mais l'eau est tellement importante parce qu'il pleut trois semaines pendant la mousson l'été. Et pendant trois semaines, vous recevez environ les trois quarts de votre eau annuelle. Alors, vous comprenez que capter l'eau devient important. Ouais. Et c'est pour ça que le Cachemire aussi est une région stratégique pour ça.
Puis, dans la continuité, justement, on relie avec l'Himalaya. Comment le Népal, qui est quand même un pays isolé à côté de l'Inde et la Chine, coexiste entre ces deux tensions tout le temps, surtout au niveau qui contrôle beaucoup justement l'Himalaya, qui est relié à de l'eau, beaucoup de sources d'eau.
Ouais.
C'est quoi ces relations avec eux?
Historiquement, le Népal a été longtemps sous influence indienne, il ne faut pas se le cacher. Si on regarde son écriture, sa religion, 80% des Népalais sont hindous. Alors, ça vous donne déjà une idée. C'est un pays enclavé et du côté de l'Himalaya et du côté indien, non pas du côté chinois, si on regarde la pente de l'Himalaya. Ce qui fait que le Népal est un peu prisonnier du fait qu'il soit enclavé. Et à quelques reprises, l'Inde a coupé, dans le fond, l'accès soit du pétrole ou de la bouffe au Népal en bloquant, dans le fond, si vous préférez, le pays de façon terrestre et même aérienne. Ce qui fait en sorte que le Népal est un peu pris en otage souvent par l'Inde, ce qui fait en sorte que la Chine, lorsqu'elle a proposé le prolongement du chemin de fer qui relie le Tibet à la Chine, elle a proposé de l'amener jusqu'au Népal. Les Népalais ont bien aimé cette idée-là. Ils ont fait venir des Chinois, etc. La nouvelle route de la soie de Xi Jinping s'en va au Népal. C'est sûr que pour le Népal, ça nous donne une porte de sortie si on est bloqué par l'Inde. On peut toujours faire affaire avec la Chine, mais il faut... relativiser le tout parce que ça ne va pas amener un gros débit commercial parce que ce n'est pas une route très facile à traverser, d'une part. Et d'autre part, ça va amener beaucoup peut-être un endettement au Népal lié à des investissements ferroviaires. Il n'y a pas d'ingénieur ferroviaire au Népal puis ils veulent avoir un chemin de fer. Alors, ça va coûter de l'argent. Alors, est-ce que le Népal est prêt à allonger cet argent pour se désenclaver de l'influence indienne? Est-ce que c'est pas c'est ce que la Chine tente de faire savoir au Népal pour la séduire? J'ai des doutes que ça fasse un flux commercial intéressant parce que c'est pas une route très carrossable, disons, entre Lhasa au Tibet et à Katmandou.
Oui, ben, je pense que ça va un peu dans la direction qu'on s'en allait tantôt par rapport à la question d'amis et de partenariat. Léo, je vais te laisser un peu expliquer.
Oui, mais en fait, je vais y aller au début, surtout au niveau de l'armement de l'Inde, qu'on voit que c'est un pays quand même qui demande beaucoup d'armes, qui se militarise quand même beaucoup plus qu'avant. C'est quand même un des plus grands importateurs d'armes. Si je ne me trompe pas, c'était le deuxième au monde.
Je crois qu'il est premier maintenant.
Maintenant, il est rendu premier. Justement, il apporte beaucoup d'armes de la Russie, de la France, des États-Unis. Donc, il est un peu le joueur d'un peu de plusieurs partenaires différents qui ne s'apprécient pas nécessairement. Donc,
j'aurais pu rajouter aussi Israël dans
Israël.
Parce que c'est en effet, c'est quatre pays.
Mm-hmm. Justement aussi avec Israël, avec ses tensions justement avec les communautés musulmanes et l'Inde avec ses tensions de communautés musulmanes. Donc comment l'Inde essaie de s'inscrire dans cette... relié à son armement puis à son autonomie, parce qu'il faut, en tant que puissance, il faudrait quand même qu'elle devienne assez autonome dans son armement.
Il y a aussi son influence dans la région de l'Asie, mais la région occidentale aussi. Il y a plusieurs partenariats qui varient, donc comment l'Inde arrive à jouer sur plusieurs fronts en même temps?
Bien, on comprend pourquoi l'Inde s'est abstenue des sanctions pendant la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que l'Inde importe beaucoup de pétrole de la Russie maintenant. Avant, ce n'était pas le cas. Plus de la moitié de son armement provient de la Russie. Alors, l'Inde ne peut pas dire non à la Russie demain matin parce que tout son système de défense est en péril. Ça prend des pièces, normalement, des fois. Il faut maintenir certains... L'Inde attend toujours, dans le fond, des radars antibalistiques que la Russie a promis. Ils ont déjà payé, mais ils les attendent tout le temps. Mais là, comme vous le savez, la Russie est occupée. Puis elle ne veut pas vendre trop tôt son armement et plutôt l'utiliser en ce moment. Alors, l'Inde tape du pied. C'est un des éléments qui va accélérer peut-être sa dérussification de son armement. Alors, aujourd'hui, avant, c'était pas loin de 80% de l'armement provenait de la Russie. Aujourd'hui,
80%?
Oui.
Puis le reste est États-Unis et Israël?
À l'époque, 80%, oui, c'était un peu les États-Unis, la France. Parce que là, la France a réussi à vendre des mirages, ce qui fait que le pourcentage de l'armement acheté à la France a augmenté beaucoup, mais c'est un achat de cette année. Ouais. Alors, le pourcentage va peut-être baisser l'année suivante. Mais il y a une tentative de se désenclaver de la Russie. Autre élément qu'il faut prendre en considération aussi, c'est l'effet qu'a l'Inde aussi sur les relations internationales au Moyen-Orient. Entre autres, si on parle justement, je parlais de la question musulmane, et l'Inde qui de plus en plus pousse les pays musulmans à reconnaître Israël. Ça, c'est peut-être un élément qu'on parle très peu dans les médias ici, mais sa puissance, justement, vous avez parlé de son influence politique dans sa région. L'Inde a lancé la Look West Policy qui concerne surtout le Moyen-Orient. Il y a deux raisons importantes pour faire ça. Au-delà du fait d'avoir des hydrocarbures, hein, du pétrole, elle va aller chercher aussi l'expertise justement pour l'armement au point de vue de l'Israël. Et aussi, elle a une minorité religieuse qu'elle aimait bien, surtout au gouvernement actuel, disons, mettre à sa place, si vous préférez. Ce qui fait que le gouvernement indien met beaucoup de pression sur les pays du Moyen-Orient pour reconnaître Israël, pour normaliser, si vous préférez, ses propres relations aussi avec Israël et les pays musulmans. Et de facto, lorsqu'elle réussit à faire ça, elle disqualifie, dans le fond, tout sujet qui porte atteinte à sa souveraineté, en l'occurrence ses tensions avec le Pakistan. Donc, l'Inde réussit, en faisant du lobbying auprès des pays musulmans, d'isoler le Pakistan. Donc, toute la question du Cachemire, par exemple, les Pakistanais dénoncent l'Inde en terre musulmane, blablabla, tout ça. Eh bien, même la Ligue musulmane n'est pas intéressée à entendre parler les doléances du Pakistan. Donc, on comprend que là, le poids géopolitique de l'Inde a un effet direct sur, justement, sa capacité à nouer diplomatiquement avec des pays sans que les pays musulmans soient offusqués, en l'occurrence Israël. Alors, on voit que l'Inde, dans le fond, a peut-être beaucoup plus d'influence diplomatique au Moyen-Orient qu'on se l'imagine. Oui. Parce qu'il y a une diaspora de 9 millions d'Indiens au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe. Ça fait réfléchir certains pays.
Justement, il y avait beaucoup de travailleurs indiens, des communautés indiennes au niveau du Qatar pour la Coupe du Monde.
C'est ça. Alors, écoutez, si on rapatrie tous les travailleurs indiens demain matin, Toute l'industrie de la construction tombe. Même chose aussi pour l'industrie pétrolière, parce que les travailleurs sur les ceux qui construisent...
C'est une grande proportion de personnes indiennes.
C'est ça, c'est en grande partie des travailleurs indiens temporaires qui sont là. Ce qui fait en sorte que si l'Inde retire ses billes, d'un coup sec, un pays peut perdre 20 % de sa population. Et la plupart de ces 20 %-là, cette population, travaille justement dans l'industrie pétrolière, de la construction, même de la restauration, peu importe.
Donc, c'est aussi à l'avantage de ces pays-là qui accueillent les immigrants.
Bien, c'est la, il faut comprendre, je ne dirais pas des immigrants, je dirais plutôt des migrants parce qu'ils ont un statut temporaire. Ils ne sont pas naturalisés, contrairement à ici. C'est une main-d'œuvre plus jetable, si vous préférez, qui est moins qualifiée. Ce qui fait en sorte que... les pays hôtes ont besoin de cette main-d'œuvre-là pour faire rouler leur propre économie. Et l'Inde va chercher beaucoup de ressources et de dollars américains en envoyant justement cette diaspora un peu partout. Mm-hmm. L'Inde a la plus grande diaspora au monde. Il y a environ 32 millions d'Indiens à l'extérieur de l'Inde.
Dont la plus grande est au Canada.
Pardon?
La plus grande est au Canada ou aux États-Unis, en fait?
La plus grande diaspora en ce moment est aux États-Unis. OK. Après ça, ça doit être l'Arabie Saoudite. Je n'ai pas les chiffres de l'année passée, mais grossièrement, ça doit être ça. Ensuite, ça doit être soit le Myanmar ou la Malaisie, où il y a beaucoup, historiquement, beaucoup de migration indienne qui s'est faite par l'Empire britannique. Je crois que nous, on est cinquième ou sixième, le Canada, dans le monde.
OK. Je pensais qu'on
Mais je pense qu'on est surtout au niveau de la communauté Sikh.
On est premier pour les Sikhs. Oui,
c'est ça. Okay.
Ainsi que les Tamouls, en excluant le Sri Lanka. Alors, non, le Canada est le pays le plus indianisé du G20. On a quand même 1,5 million, grossièrement, là, de gens en provenance de l'Inde. Ce qui fait que proportionnellement, on est le pays le plus qui contient le plus d'Indiens sur la Terre.
Mm-hmm. Mais justement, dans toutes ces diasporas, on voit aussi qu'il y a beaucoup des étudiants internationaux donc qui sont qualifiés finalement les Indiens. Beaucoup sont étudiants dans les universités américaines, canadiennes ou en Europe, peu importe.
Justement, et là, c'est sorti récemment un nouveau PDG de Silicon Valley qui est d'origine indienne. Ils prennent de plus en plus de place. Leur expertise est vraiment appréciée dans les pays occidentaux.
Et à quel point ça avantage l'Inde d'envoyer sa main-d'œuvre ailleurs? Est-ce qu'ils n'ont pas peur justement qu'elle reste là-bas et qu'elle ne revienne pas justement dans leur pays pour les aider financièrement dans un sens?
Oui, en effet, depuis 3-4 ans, les Indiens ont surpassé les Chinois en termes d'effectifs pour les étudiants étrangers. C'est des Indiens qui, souvent, ce ne sont pas des intouchables. Ceux qui peuvent venir étudier ici, c'est des gens qui viennent d'une frange de la société plus aisée, disons, d'une part. Et d'autre part, c'est clair que vous avez une perte sur la quantité d'Indiens qui vont étudier un peu partout. Vous savez, comme au Canada, en 2022, on a reçu 113 000 Indiens. Le deuxième groupe en importance, c'est les Chinois à 31 000. Comme vous pouvez voir, depuis 3-4 ans, le Canada s'indianise beaucoup, hein, en regardant les chiffres. Et maintenant, ce sont les étudiants étrangers indiens qui sont plus nombreux que les étudiants chinois au Canada. C'est un phénomène assez récent. Bon, il faut dire que le COVID n'a pas aidé. La Chine a fermé beaucoup ses portes, ce qui fait que le nombre d'étudiants chinois a baissé, a chuté dramatiquement. Et l'Inde a pris le relais de ce côté-là. Alors, sur le pourcentage des étudiants qu'on envoie un peu partout dans le monde, il y en a une partie qui ne revient pas, en effet. C'est une perte, hein, dans le fond, une fuite de cerveau, mais aussi, on appelle ça aussi, au-delà du brain drain, il y a le brain gain, c'est-à-dire qu'il y a un gain aussi qui se perd, c'est-à-dire que les étudiants qui vont rester ici, bon, vont envoyer de l'argent à la maison en général, puis ils ont toujours ce sentiment diasporique là, d'appartenance à la au pays d'origine.
Donc, le concept de brain gain, c'est que les personnes d'origine indienne qui viennent dans un autre pays vont envoyer de l'argent après ça à leur famille, à leur
pays. Oui, c'est pas une perte sèche, comme on dit, un brain drain, c'est la fuite des cerveaux, si on l'a traduit. Mais c'est le gain aussi qui est retrouvé, bon, qu'il soit monétaire, mais pas simplement monétaire aussi, au point de vue du transfert des connaissances, parce que ça aussi, ça se transfère. L'Inde, est-ce que c'est une saignée? On pourrait dire que sur le nombre, il y en a beaucoup d'Indiens, là, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Là. Oui, ça fait mal, mais pas aussi mal qu'un pays comme Haïti, par exemple, où là, il perd 80 % de ses travailleurs qualifiés, ce qui est seulement 15 % du côté indien. Alors, vous comprenez que la saignée est plus dure dans des pays comme Haïti, par exemple, des pays d'Afrique. On reproche d'ailleurs le gouvernement québécois d'aller faire du recrutement d'infirmières dans des pays d'Afrique francophone. Ça vide, dans le fond, les hôpitaux africains. Pour régler nos problèmes.
On est vers la fin, on est des larmes de feu, on est désolé. Donc, on reprend maintenant avec où Léopold a laissé sa question.
Donc, après avoir parlé justement des travailleurs et des diasporas indiennes, on irait plutôt dans une question plus au niveau de l'international de l'Inde. Donc, comment s'inscrit dans ces relations internationales qui a fait partie du BRICS, qui a beaucoup de partenariats, comme on a pu le voir avec l'armement, avec que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, et elle veut en même temps s'inscrire comme une puissance régionale dans l'Asie ou particulièrement dans l'hémisphère sud. Donc, comment qu'elle s'inscrit? Et finalement, est-ce qu'elle a finalement des amis ou elle a juste des partenaires un peu partout qui lui arrangent? Est-ce qu'elle a vraiment un ami international?
Historiquement, l'Inde était un pays non aligné, du moins c'est elle qui menait le non-alignement. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est multi-alignée. Elle cherche à être amie un peu avec tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a cette position-là envers la Russie pendant la guerre en Ukraine. On ne pourrait pas dire que ça lui a si bien servi dans le passé, parce que c'est encore un pays encore très pauvre, etc. Alors, ces alliances du passé ont-elles été un choix judicieux? On pourrait toujours se poser cette question-là. Alors, est-ce qu'elle a des amis? Pas vraiment.
C'est ça que je me disais, justement.
Moi, j'ai dit qu'elle avait juste des partenaires.
Oui, en effet, peut-être que ce serait une bonne façon de décrire un peu la politique indienne, c'est qu'elle choisit ses partenaires, en effet. Parfois, elle s'appuie sur certains pays dans des conjonctures bien précises. Parfois, elle est alliée avec la Chine. J'ai évoqué, entre autres, le BRICS. Bon, ça peut lui servir d'une certaine mesure. À titre d'exemple, elle paye son pétrole russe avec des yuan chinois. C'est pour vous dire comment c'est étrange. Oui, c'est du dollar américain ou des yuan chinois. Le rouble russe vaut pas cher. Mais en effet, elle a peu d'amis. Les plus proches, les amis qu'on pourrait dire les plus solides avec l'Inde, c'est surtout des pays justement du Moyen-Orient. C'est peut-être ça les pays les plus proches de l'Inde. Il y a aussi le Japon qui est peut-être un ami intéressant parce que là, un ami de convenance parce que ça, il y a la Chine entre les deux. Exactement. Dans le fond, l'Inde aime ça s'appuyer. Mais la Russie aussi, historiquement, c'est le pays où l'Inde était le plus proche pendant la guerre froide. Et elle veut garder des bonnes relations avec la Russie. Donc,
mais finalement,
c'est un ami de circonstance.
Oui, donc finalement, elle est quand même gagnante à jouer ce double jeu en étant amie avec la Russie, mais en même temps les États-Unis, en étant amie, faisant des relations avec la Chine, mais en même temps amie avec le Japon.
Oui, donc, c'est plus payant aujourd'hui que par le passé. Oui, avant, elle était plus proche du bloc de l'Est, si vous préférez, elle est un peu isolée du monde, ce qui fait qu'elle n'a pas eu beaucoup de capitaux en provenance du bloc de l'Ouest, d'une part. Ça ne l'a pas aidé à s'enrichir, d'une côté, d'un point de vue technologique aussi. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, elle veut maintenir, dans le fond, sa relation cordiale, mais elle s'est rapprochée beaucoup de l'Occident depuis une quinzaine d'années. Il y a eu un accord nucléaire avec les États-Unis en 2006 qui a fait un peu débloquer le rapprochement avec les États-Unis. Aujourd'hui, l'Inde va chérir beaucoup sa relation avec les États-Unis, beaucoup plus que par le passé. Mm-hmm. Ils ont créé le Quad, là, le dialogue quadrilatéral, entre autres, une organisation où l'Inde fait partie avec les États-Unis. Donc ça, c'est un peu nouveau. On pourrait dire qu'elle se rapproche de l'Occident, s'est rapprochée de l'Occident parce qu'elle parle de multi-alignement. Alors avant, c'était plutôt l'uni-alignement, surtout vers le sud peut-être, et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest faisait petit, dans le fond, jusqu'à un certain point.
Oui.
Alors l'Inde, dans le fond, s'est rapprochée de l'Occident.
Oui, justement, s'est rapprochée, ce serait pas aussi un peu pour qu'ils l'ont vu que l'Occident est quand même utile face à la Chine, qui est quand même une autre puissance régionale, et avec le Japon, mais à quel point ils sont dans un sens qu'on pourrait qualifier, c'est peut-être un peu trop qualifié comme mot, ennemi de la Chine, parce qu'ils sont quand même en relation avec le BRICS, donc à quel point aussi ils sont perdants à être en opposition à la Chine? Est-ce qu'ils veulent vraiment être en opposition à la Chine tant que ça?
Ah, c'est un peu payant d'être en opposition à la Chine, surtout pour unir, dans le fond, le sentiment national en Inde. Ça prend un ennemi commun. Bon, il y a toujours le Pakistan, mais il y a la Chine aussi qui joue ce rôle. C'est pour ça que là, on s'en va en campagne électorale. Probablement, le gouvernement indien va bomber le torse là, dans ce qui s'en vient face à la Chine. C'est logique, c'est dans une campagne électorale qui s'en vient. Mais aussi, c'est un gros voisin. Alors, on ne peut pas faire, c'est un peu comme le Canada.
Un voisin puissant aussi.
Oui, c'est ça. Alors, nous, notre relation avec les États-Unis sont teintées par la proximité géographique. C'est la même chose pour l'Inde.
Ouais.
Mais elle perçoit la Chine de façon avec beaucoup de méfiance. Il ne faut pas se le cacher. Il y a une guerre entre les deux. En ce moment, les frontières sont en train de s'armer. et non pas, on n'est pas en train de construire des ponts, mais on est plutôt en train de construire des missiles antibalistiques. Alors, vous comprenez, c'est pas la paix là, qu'on semble envoyer. Pour les gens qui connaissent c'est quoi la théorie constructiviste en relations internationales, c'est clair que la perception entre l'Inde et la Chine est basée sur la méfiance. Il ne faut pas se le cacher. Donc, dans certains cas, que ce soit par le BRICS, parce que ça permet entre autres à enlever le dédollariser l'économie mondiale, c'est avantageux pour l'Inde et la Chine, pour ceux qui sont ensemble. Même chose pour les COP, les négociations climatiques. Les deux pays veulent avoir, dans le fond, cette application différenciée, si vous préférez, des limitations de GES. Donc, l'Inde et la Chine aussi, là, ils peuvent coopérer. Mm-hmm. C'est tout à fait logique, puisque les deux, dans le fond, ont le même agenda. Mais c'est une coopération limitée qu'on peut voir entre l'Inde et la Chine.
Ouais.
Ce qui fait que beaucoup de pays, depuis les 5 dernières années, il y a une flambée de politiques indo-pacifiques qui apparaissent. Jusqu'à maintenant, il y en a une douzaine de politiques indo-pacifiques. Et c'est pour séduire l'Inde, justement, dans l'optique aussi de répondre aux défis chinois.
Oui, puis aussi, on peut voir aussi avec le détroit au niveau de Singapour, qui est quand même un détroit, je ne me rappelle plus précisément du
Malacca,
nom.
Malacca.
Le Malacca, exactement. Donc, ce détroit qui est quand même un des détroits qui est le plus, comment dire, il y a plus de trafic maritime dans le monde. C'est énorme, énormément de trafic maritime. À quel point l'Inde, qui vient de s'équiper d'un deuxième porte-avions aussi, qui fait s'inscrire quand même aussi comme une puissance navale en même temps aussi terrestre, essaye de se mettre en opposition au niveau aussi maritime, à quel point elle est capable aussi de se mettre en opposition maritime face à la Chine?
Bon, la marine indienne, initialement, là, elle est conçue pour protéger, ou du moins les intérêts de l'Inde dans l'océan Indien.
Ouais.
Il faut comprendre qu'elle se limite à ça. Des porte-avions, normalement, ça vous permet d'aller très loin. C'est des petits porte-avions, ce n'est pas des aussi gros porte-avions que les États-Unis ont. Même chose pour les porte-avions chinois, sont plus modestes que les porte-avions américains. Elle tente de rivaliser, n'a pas la capacité de rivaliser avec la marine chinoise pour l'instant. Je vous dirais qu'il est environ à 60% de la puissance chinoise, là, grossièrement, si on veut en faire un dessin. Mais c'est surtout pour arraisonner n'importe qui dans l'océan Indien. Comme diraient les Chinois, c'est l'océan Indien, non pas l'océan des Indiens. Mais l'Inde perçoit l'océan Indien comme étant l'océan des Indiens. Alors, son investissement dans la marine vise surtout à ça, ce qui lui permet peut-être de faire un blocus maritime avec l'aide des États-Unis, advenant le cas. C'est pour ça que ça inquiète la Chine. Et c'est pour ça que la Chine va développer des routes de la soie terrestre pour éviter ce blocus-là. Et le détroit de Malacca en question, il y a 100 000 navires qui traversent le détroit par année. Il est sous contrôle américain en ce moment. Alors, c'est ces Américains...
Beaucoup de navires, ça.
Oui, c'est le détroit le plus occupé au monde. Alors, il y a une façon de mettre, dans le fond, de le bloquer. Alors, vous comprenez que la Chine aussi cherche de façon...
Oui, parce que justement, la Chine, avec sa route de la soie maritime, avait, il me semble, racheté un port au niveau du Sri Lanka et au niveau du Pakistan. Mm-hmm. Ça a dû vraiment énerver l'Inde au niveau que, comme vous qualifiez, que l'Inde des Indiens, puis...
Oui, parce que les Indiens, traditionnellement, c'est leur zone d'influence. Ouais. Avoir les Chinois dans le coin, ça les indispose pas mal. Vous avez mentionné entre autres le Pakistan, avec le port de Gwadar, Hambantota au Sri Lanka, et je pourrais rajouter aussi le Bangladesh, et Tagong au Bangladesh. Mmh. Alors, la Chine aime bien pouvoir se placer en Asie du Sud, ce qui indispose les Indiens, mais aussi c'est un couteau à double tranchant. Alors, plus vous vous rapprochez de la Chine, un, votre balance commerciale va en souffrir. Et deux, aussi, vous pouvez vous mettre à dos l'Inde. Et quand vous êtes en Asie du Sud, c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre à dos l'Inde, compte tenu, c'est de la puissance. Ouais. Alors, c'est un couteau à double tranchant. Il y a des pays, dans le fond, qui utilisent la Chine comme porte de sortie face à l'influence indienne. Mais ça peut enrager Delhi. Alors, c'est un jeu d'équilibriste que doivent faire les petits pays en Asie du Sud.
Tout à fait. On sent un petit peu de la relation Inde-Chine et des pays de l'Asie pour peut-être revenir avec celle du Canada.
Mm-hmm.
Donc, on a mentionné tantôt que finalement, l'Inde n'a pas vraiment d'amis, elle a surtout des partenaires à l'échelle mondiale. Comment s'est améliorée les relations indo-canadiennes récemment? L'Inde a accepté de recommencer à émettre des visas pour le Canada tout récemment. Donc, comment vous décririez la situation là, en terminant?
Bon, c'est pas amélioré, c'est détérioré.
C'est pas amélioré.
Ben, si on compare au passé, puis oui, en effet, l'Inde a recommencé à émettre des visas de façon partielle. Hein. Moi, j'ai toujours pas le droit de faire une demande de visa. Je peux pas aller en Inde en ce moment, malheureusement. C'était prévu. Alors, il y a une détérioration des relations. Pourquoi? Parce que, justement, il y a cette mouvance séparatiste sikh qui est très présente au Canada. C'est la plus grande communauté sikh au Canada. Et le Canada a tendance à chérir un peu cette présence-là, ce qui, dans le fond, est perçu en Inde comme étant une célébration du séparatisme sikh. Alors, les conflits qu'on a eus récemment avec l'Inde, c'est que l'Inde est indisposée un peu par se laisser aller, ou du moins cette façon que l'Inde, le Canada gère, si vous préférez, sa présence indienne. Alors, la moitié de la diaspora indienne au Canada est sikh, est d'origine sikh. C'est de loin l'influence historique la plus importante, et ce qui indispose bien sûr l'Inde. En ce moment, les relations économiques vont bien malgré tout. Hein? On peut dire que les relations diplomatiques ne vont pas très bien, mais par contre, les échanges vont bien, sont en croissance. Si on regarde tous les pays de l'Indo-Pacifique, l'Inde et le Vietnam sont l'un des pays où ce que les exportations canadiennes vont le mieux. Okay. Donc, malgré cette tension qu'on a d'un point de vue politique, point de vue économique, les relations sont bonnes. Et pour régler nos problèmes politiques, il va falloir aussi que les deux pays tracent une ligne rouge puis qu'ils acceptent de ne pas la franchir.
C'est-à-dire, c'est l'ingérence qui dérange?
Ben, c'est sûr que si ça s'avère vrai, venir assassiner quelqu'un dans un pays étranger, c'est grave. Et d'autre part aussi, le Canada qui, à chaque fois, envoie des premiers ministres en Inde, va toujours au Punjab célébrer la différence sikh. Ça l'indispose des Indiens qui sont un peu...
Un peu tanné
de voir, dans le fond, ce qu'on pourrait dire du maraudage électoral. C'est un peu impoli d'aller dans un pays étranger pour faire du maraudage électoral, puis quand tes autres voudraient parler genre affaires ou sécurité, et toi, tu te promènes devant le Taj Mahal ou devant le Temple d'or à Amritsar pour aller chercher des votes. À un moment donné, il va falloir que le Canada réalise que la diplomatie ne sert pas simplement à faire le plein de votes à la maison, mais plutôt de lier le pays avec d'autres pays. Et c'est un peu la dérive qu'on a de la politique étrangère canadienne depuis quelques années, c'est qu'elle suit des intérêts de partis politiques plutôt que des intérêts nationaux. Alors, le gouvernement canadien, peu importe sa couleur, ils ont fait ça aussi les conservateurs quand ils étaient au pouvoir, mais surtout aussi en ce moment, il va falloir qu'on gère nos relations extérieures pour le bien du pays, du Canada plutôt. Mm-hmm. Bon, si vous travaillez pour un autre pays, vous travaillez pour un autre pays, mais qu'on cesse de travailler pour des partis quand on fait de la politique étrangère. Je pense que le Canada, il est temps qu'on fasse un examen de conscience sur comment on pratique notre politique étrangère.
C'est très bien dit, qu'on arrête d'aller chercher les votes puis qu'on se concentre sur la politique étrangère. Mm. En fait, est-ce qu'on peut conseiller qu'il y a de l'espoir si on va dans cette direction-là?
Oui, non, moi je crois qu'il y a beaucoup d'espoir.
Okay.
Parce que là en ce moment, il y a eu un accident de parcours, quoi, je pourrais dire, dans le fond, qui est réparable. Là, on aura commencé à se parler avec les Indiens là, en ce moment. Je veux dire, les États-Unis, la semaine passée, M. Blinken a comme mis un peu de pression sur les Indiens en voulant dire « réglez vos différends, là, parce que vous êtes des alliés importants et on a besoin de vous ». Puis aussi, si on regarde à plus long terme, l'Inde va avoir aussi besoin du Canada. N'oubliez pas que l'Inde doit importer de plus en plus aussi sa nourriture, puis le Canada est là pour ça. Je vous rappelle qu'on fournit l'Inde en lentilles, en uranium et en potasse, alors ça ne va pas changer, ça va être encore là, les demandes. Mais je vous dirais qu'à long terme, je suis pas mal optimiste parce que les besoins et la nécessité sont là. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est plutôt une erreur, ou du moins, pas une erreur de parcours, mais plutôt un obstacle qui va probablement disparaître à un moment donné.
C'est très rassurant d'entendre ça, puis aussi d'avoir mis un portrait plus clair sur l'Inde actuellement, ses relations diplomatiques, puis ses enjeux aussi à l'interne. Donc, je vous remercie, M. Granger, d'avoir accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et merci, Léopold, aussi d'être venu. Ça a été très pertinent. Donc, sur ce, bonne journée à tous.
Bonne journée.